Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'espère que vous aimez ma veste. Elle est un peu spéciale, j'avoue.
Non, elle est très
non, c'est
elle
très
est
jolie, mais pourquoi?
C'est le pari d'une copine. J'ai dit que je la mettrais, c'est la veste d'une copine. Ça va?
Non, c'est très bien. Non,
hein. Pas trop...
Oh,
du tout. Bon, allez, l'info, bonsoir à tous. Simon Guillain pour l'info. Ça va, Simon?
Ça va en pleine forme, et moi?
Non, oh, ça bon. Va pas du tout. Voilà. Vous êtes toujours impeccable.
Évitez de poser des questions.
Bonsoir, chère Christine, et bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Le procès en appel de l'attentat de Nice s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris. En première instance, Mohamed Graieb et Chorki Chafroud avaient été condamnés à 18 ans de prison. Il s'agit de deux proches de l'auteur de l'attentat au camion Bélier qui avait fait 86 morts le 14 juillet 2016. Le chanteur Kenji Girac, hospitalisé à Bordeaux après avoir été blessé par balle au thorax la nuit dernière. Son pronostic vital n'est pas engagé et son état de santé est stabilisé. Les circonstances de ce tir restent encore floues. Aucune hypothèse n'est écartée à ce stade de l'enquête. Et puis le gouvernement fixera de nouvelles règles à partir du 1er juillet concernant l'assurance chômage. L'objectif de ces nouvelles mesures est d'atteindre le plein emploi et de favoriser le retour au travail des chômeurs indemnisés. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère du Travail, cher Christian.
Merci beaucoup Simon Guillain. Et au sommaire ce soir, si nous sommes ici, c'est que vous étiez là-bas. Voilà ce qu'on pouvait lire sur certaines pancartes lors de la manifestation contre le racisme et l'islamophobie qui s'est tenue ce week-end à Paris. En quoi cette affiche représente bien l'état d'esprit de la manifestation? L'édito de Mathieu Bocoté. Faut-il introduire une dose de proportionnelle aux élections législatives? Yael Bonne-Privé s'est une fois encore prononcée pour ce changement. Mais quel camp cela avantagerait-il? Avant, il ne fallait pas de proportionnelle pour éviter au RN d'avoir des députés. Maintenant, il faut de la proportionnelle pour que le RN n'ait pas la majorité. Que comprendre? L'analyse de Dimitri Pavlenko. Lors de la manifestation hier à Paris contre les racismes et l'islamophobie, des portraits de personnalités de C8 et CNews ont été pris pour cible, comme Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. N'est-on pas là dans une dérive sectaire dangereuse pour la démocratie, un appel à la haine dont eux-mêmes ont l'impudeur de se dire victimes? Le regard de Marc Menon. Selon un décret paru hier, il faudra passer au moins 9 mois en France et non plus 6 pour bénéficier des aides familiales et du minimum vieillesse à partir de 2025. Voilà qui intervient dans le cadre d'un vaste plan de lutte contre la fraude sociale. Est-ce le début d'une reconnaissance de cette fraude sociale que beaucoup voudraient minimiser, voire nier ou excuser? Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis hier, le 21 avril, l'ex-ministre Clément Beaune a voulu rappeler à tous sur les réseaux sociaux cette date du 21 avril 2002, moment important de la vie politique, ce moment où Jean-Marie Le Pen s'est qualifié pour le second tour à la surprise générale. 21 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé? L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure avec nos mousquetaires qui sont là ce soir en pleine forme pour démarrer la semaine. C'est parti. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver.
Vous avez une jolie veste.
Oh, merci alors. Hashtag veste, si ça vous plaît. Alors, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je vois Mathieu Bocoté déjà très concentré, beaucoup d'actualités, beaucoup de choses à dire. Mathieu, on commence tout de suite avec vous.
Avec plaisir.
Allez, ce week-end s'est tenue à Paris une manifestation contre le racisme et l'islamophobie. Au cœur de cette manifestation, de nombreux discours, de nombreux slogans, de nombreuses affiches. Et c'est l'une d'entre elles qui a frappé votre attention, Mathieu Bocoté. Si nous sommes ici, c'est parce que vous étiez là-bas. Selon vous, cette affiche est particulièrement représentative de l'état d'esprit de ceux qui se trouvaient à la manifestation. Pourquoi ?
Et non seulement de ceux qui étaient à la manifestation, mais de tout un discours qui justifie l'immigration massive sur le mode revanchard. Mais j'y reviens dans un instant. D'abord et avant tout, c'est un rappel sur la manifestation. Donc, elle a d'abord été interdite. Elle a été interdite, pourquoi? Parce qu'on redoutait notamment que qu'on entende certains slogans anti-sionistes ou antisémites. Je note qu'encore une fois, c'est la logique de pré-crime. Parce qu'on redoute que se tienne un crime, on redoute certains slogans, on redoute un certain discours, on cherche à interdire d'avance l'événement. Finalement, on n'a pas été, la manifestation a été autorisée, mais je note que c'est de plus en plus fréquent, cette manie. Parce qu'on redoute un discours, on interdit. Il y a quelque chose là-dedans qui fait penser au film Rapport minoritaire, dont on a déjà parlé ici.
Pardon? Avant, c'était un seul camp. Maintenant, c'est
pour une fois.
Une petite évolution, non?
Bien franchement, j'ai l'impression que le pouvoir a le sens de l'arbitraire en ces matières. Dès lors qu'il pense qu'il va entendre quelque chose qu'il n'aimera pas, il veut censurer. Première chose. Deuxième élément, ce qui est intéressant aussi dans cette manif, c'est de voir tous les groupes qui, d'une manière ou de l'autre, l'ont porté, l'ont soutenu. On pense à la France insoumise, à ATTAC, au planning familial, notamment, c'est pas un détail, Révolution permanente, plusieurs groupes de défense des droits des sans-papiers. Donc, c'est le point de contact, ou la mouvance indigéniste aussi, c'est le point de contact de deux gauches, pourrait-on dire. La gauche radicale, donc tendance LFI, et la gauche décoloniale qui, elle, est dans une logique souvent de conquête, hein, de revanchisme décolonial. J'y reviens dans un instant. Je note, soit dit en passant, la poignée de main entre Mathilde Panot, Louis Boyard et Médine, qui ensemble se sont rassemblés. On se souvient de Médine avec sa chanson, notamment, où il voulait crucifier les laïcars sur le Golgotha. On comprend ici son immense tendresse pour la laïcité, son immense compréhension pour les victimes de Charlie Hebdo, les victimes du Bataclan. Donc, probablement, est-ce pour cela que nos amis de LFI lui serraient la main aussi joyeusement. Donc, c'est un état d'esprit qui se manifestait là. Mais vous avez eu raison de le mentionner, parmi les pancartes, parmi les slogans, certains sont particulièrement parlants. Parce que quand on s'intéresse à une manif, il faut voir justement quelles sont les affiches, quelles sont les pancartes, quels slogans sont mobilisés. Ça permet de voir quel est l'état d'esprit de ceux qui y sont. Et l'un d'entre eux était exceptionnel. « Si nous sommes ici, c'est que vous étiez là-bas ». Autrement dit, et là, il y a différents modes de lecture de ça, mais sur le mode « vous l'avez bien cherché, nous sommes ici ». Parce que vous êtes imposé chez nous autrefois, nous sommes ici pour que vous ayez à payer. Et là, il y a différents types de lectures de si nous sommes ici, c'est parce que vous étiez là-bas. Le premier, c'est un argument assez classique. Quand on entend souvent, lorsqu'on dit la France connaît aujourd'hui l'immigration de ses anciennes colonies, c'est un mouvement inévitable. De quoi se plaint-elle d'ailleurs? Elle était ailleurs, il est normal qu'elle accueille désormais l'ailleurs chez elle. C'est un argument qui a ses limites. Pourquoi? Parce que l'immigration massive aujourd'hui se déverse dans l'ensemble de l'Europe et pas seulement dans les anciennes puissances coloniales. On le voit au Danemark, on la voit en Suède, on la voit en Irlande. Alors, je pense qu'on peut reconnaître que l'Irlande n'était pas une puissance coloniale particulièrement présente en Afrique autrefois, or, non plus qu'au Maghreb. Or, tous les pays européens connaissent aujourd'hui ces vagues migratoires. Donc l'argument du « finalement, nous payons le prix de nos excès d'hier » me semble à relativiser. Le deuxième argument me semble plus intéressant si on cherche à comprendre ce slogan « si nous sommes ici, c'est parce que vous étiez là-bas », c'est la notion de ce qu'on pourrait appeler le revanchisme décolonial. Donc à l'échelle de l'histoire, il y a des civilisations, il y a des peuples, il y a des nations. Et certains s'étendent, et un jour, ils perdent leur vitalité, perdent leur énergie, ils se fatiguent, ils se refluent vers leurs frontières. Et là, c'est le mouvement qu'on pourrait dire contre-colonial. Donc, non seulement décolonial, ça c'est l'argument utilisé, mais contre-colonial. J'essaie d'interpréter, je ne dis pas que c'est ça définitivement. Donc, contre-colonial, vous nous avez colonisés, nous vous colonisons aujourd'hui. Et là, quand on comprend les choses ainsi, on comprend que c'est un slogan sans, on pourrait dire, générosité excessive. C'est un slogan qui est sur le mode de la vengeance. C'est un slogan qui est sur le mode « vous nous avez fait payer, vous payerez aujourd'hui ». Et nous nous installons chez vous à nos conditions. C'est comme ça que je le comprends encore une fois, je peux dans toutes les nuances, je ne veux pas surinterpréter, je cherche à décrypter. Et là, il y avait trois grandes oppositions dans cette manifestation, le racisme, l'islamophobie et les violences policières. Mais qu'entend-on par racisme, islamophobie, violences policières à la lumière de ce slogan? Par racisme, on entend seulement le refus de la submersion migratoire. Vous n'êtes pas favorable à l'immigration massive, vous êtes un raciste. C'est assez clair, on l'a compris avec le temps. Si vous êtes pour des frontières, si vous croyez que les frontières veulent dire quelque chose, qu'elles doivent stopper les vagues migratoires, vous êtes vous-même un raciste. L'islamophobie, Ah ben ça, c'est un concept qui est associé intimement à l'islamisme. Qui dit islamophobie dit nous sommes dans l'univers mental de l'islamisme. Et qu'est-ce qu'on nomme islamophobie? C'est le refus de permettre à l'islam de se déployer ici à ses propres conditions et non pas aux conditions de la France et de sa laïcité. Donc on nomme islamophobie la critique de l'islam et de l'islamisme ou la volonté de lui demander de s'intégrer à la culture française. Et les violences policières? Évidemment, c'est la présence de l'ordre républicain dans certains quartiers où on juge que ces violences policières, entre guillemets, c'est l'expression d'une autorité illégitime. Un autre slogan qu'on a entendu, il y en a quelques-uns. « Y en a marre, y en a marre, y en a marre ». Il tournait beaucoup sur les réseaux sociaux. On pourrait dire, presque de bonne foi, mais si vous trouvez ça si pénible que ça, vivre en France, que faites-vous ici? Personne n'est obligé de vivre en France. Personne n'est obligé de s'y installer si c'est si pénible d'y habiter. Mais là, il y a une réponse qu'on peut comprendre qui est en lien avec les précédents propos. Se sont constitués au fil du temps, nous reprenons ici la formule de Georges Bensoussan, les territoires perdus de la République, qui ont évolué et qui se sont constitués en petites républiques autonomes, en petites républiques qui ne disent pas leur nom, mais avec un changement de population, un changement de peuple, un changement de culture, un changement de mœurs, un changement d'identité. Et bien, quand on a tout ça, on peut dire que sur ces territoires, si on est toujours à la lumière du slogan « Si nous sommes ici, c'est parce que vous étiez chez nous », mais se sont constituées des zones de peuplement nouvelles sur lesquelles ne doivent pas s'appliquer les fameuses lois de la République, la culture française et rien de tout ça. Mais ces populations sont nombreuses. Comment les fédérer? C'est difficile de fédérer tout ce monde-là, ils ne viennent pas tous du même endroit. Ah ben, on a vu quel drapeau fédérait ces populations lors de la manifestation, j'entends. Est-ce que c'est le drapeau français? Non. C'est le drapeau palestinien. Le drapeau palestinien, version Gaza, devient le symbole qui permet d'unifier ces populations dans la lutte contre le racisme français, soi-disant racisme français, et l'islamophobie française. C'est ainsi que je comprends ce premier slogan qui, encore une fois, si nous sommes ici, c'est parce que vous étiez chez nous, qui sent bon la revanche des coloniales ou la volonté de contre-coloniser, si je comprends bien.
Un discours a aussi trouvé un écho lors de cette manifestation, celui d'un jeune homme expliquant que si la France est la 7e puissance économique au monde, c'est grâce aux immigrés. Il dénonçait aussi dans sa tirade les fachos, je cite, et l'extrême droite. En quoi ce discours était-il aussi représentatif de la manifestation du week-end?
Alors, il faut dire que c'était dans un français approximatif. C'est-à-dire, et c'est important de noter que donc quelqu'un arrive ici, manifestement sa compréhension de la culture française est assez limitée, sa compréhension de la langue française est limitée. Mais tout de suite, que fait-il? Il dénonce les méchants désignés par le système, les fachos et l'extrême droite, les fachos et l'extrême droite. Il dit on en a marre, on n'est pas respecté. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que c'est le signe de la plus ultime gratitude, n'est-ce pas? On arrive quelque part et qu'est-ce qu'on fait? On décide d'insulter des gens qui rendent possible notre prospérité. Possible. C'est comme ça qu'on tisse des liens entre les peuples. Et alors, ce qui est intéressant par ailleurs dans sa phrase, c'est que la France serait la 7e puissance économique dans le monde grâce à ceux qui arrivent tout juste et qui occuperaient tous les emplois dont les Français dits de souche ne voudraient pas. On peut dire que si ces emplois étaient correctement payés, je suis persuadé que beaucoup de gens voudraient les occuper. Mais ça, c'est autre chose. Ça nous ramène à une double thèse, encore une fois. C'est toi, les échos historiques. Le travail des historiens, quelquefois les plus déconstructeurs, se transforme en slogan chez des jeunes personnes qui arrivent ici qui n'aiment pas la France. D'abord, il y a le discours de la prospérité empruntée de la France. La France ne devrait sa prospérité qu'à l'étranger. Par elle-même, elle serait pauvre. Par elle-même, elle serait misérable. Par elle-même, ce serait un pays complètement négligé. Mais grâce à l'arrivée massive de ces populations qui entrent sans être invitées, qui s'installent sans en avoir le droit et qui défilent dans les quartiers sous le signe du drapeau palestinien, la France pourrait enfin être prospère. C'est comme ça que je le comprends. Et ça fait écho à deux thèses historiques. La première, c'est l'idée de la France se serait enrichie 19e siècle, 20e siècle, seulement grâce à son empire colonial. Mais nous savons que c'est faux. Ce que nous savons, Jacques Marseille a fait des travaux très forts là-dessus. Raymond Aron l'avait mentionné au moment de l'indépendance algérienne. L'empire a coûté très cher à la France. L'empire a coûté si cher à la France que c'est pour ça qu'en bonne partie, une figure comme De Gaulle, mais d'autres, ont dit « on doit se retirer, c'est terminé, on n'a pas les moyens d'entretenir cet empire ». Donc, il se peut que finalement, l'entreprise coloniale ait coûté à la France davantage qu'elle ne l'ait enrichi. Et sur le même registre, c'est la mythologie de la reconstruction grâce aux étrangers après 45. Qu'il y ait des étrangers qui contribuent ou qu'il y ait des populations de l'Empire qui contribuent à la reconstruction après 45, c'est un fait. Est-ce que toute la reconstruction est due à ces populations? Bien sûr que non. Mais ces thèses martelées de l'université, dans les médias et ainsi de suite, le point d'aboutissement, c'est qu'une jeune personne qui arrive ici, sans gratitude, reprend ses slogans en expliquant à la France que si elle est prospère, c'est grâce à lui. On inverse la France. Hein. Ce n'est plus la France qui est une chance pour les immigrés, Ce sont les immigrés qui sont une chance pour la France. Et les chanceuses de la France.
Mais c'est très intéressant parce qu'un jour, je me suis fait arrêter dans la rue par quelqu'un qui avait discuté avec notre belle Charlotte et qui avait repris tout ce discours-là. Et ce discours-là, il est repris par... Par contre, l'autre versant du discours que vous avez donné, personne ne le reprend, personne n'en parle de ça. Mais il n'y a pas suffisamment, peut-être, pour équilibrer les choses.
Mais il y a très, très peu d'écho sur le service public, mais j'ai vu Mme Adèle Van Riet dire aujourd'hui ou hier qu'elle était ouverte à tous les points de vue, à France Inter notamment. Ben, c'est formidable, elle va pouvoir inviter tous ceux qui remettent en question la thèse aujourd'hui de la France qui se serait enrichie de manière coupable avec ses colonies. J'attends l'invitation à tous ces chercheurs remarquables. Elle pourra les inviter puisqu'elle dit elle-même qu'elle y est ouverte. C'est formidable, autant d'ouverture.
Bientôt, Mathieu Bocoté sur France Inter.
Non, pas trop loin.
En touriste, attention. Une autre manifestation, Mathieu, a lieu ce week-end rassemblant des Afghans. Faut-il la mettre en lien avec celle dont vous parliez tout à l'heure?
Bien sûr que oui.
Elle a beaucoup fait parler, cette manifestation.
Vous trouvez? Elle a fait parler en certains lieux, je trouve.
Oui,
on n'en a pas beaucoup parlé. On ne l'a pas beaucoup vue. Et j'ai ma petite hypothèse, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est parce qu'elle était tellement choquante que mieux valait ne pas la montrer. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Le point d'origine, ce sont des tensions dans la communauté afghane, ainsi de suite. Mais là, ça se déverse dans la rue. Ça se déverse de manière assez violente. Ça se déverse de manière... En fait, on sème la pagaille. On décide de détruire. On décide de s'en prendre à la propriété des uns des autres. Des gens qui, à ce que j'en sais, n'ont pas tous leurs papiers qui leur permettraient formellement d'être ici. Donc, quelle belle manière de dire merci au pays qui nous accueille que d'aller dans la rue et de détruire. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on décide de ne pas trop le montrer parce que ça pourrait laisser croire qu'en toutes circonstances, l'immigration n'est pas une richesse. À tout le moins, c'est comme ça que je comprends le grand silence des uns et des autres. Mais je vais faire un lien avec d'autres manifs. Il y a celle-là. Il y a celle, donc, dans Barbès dont on a parlé. Faisons de lien avec d'autres manifestations, par exemple, en Grande-Bretagne, encore récemment, les manifestations d'islamistes à Londres. Imaginons si on faisait une espèce de carte, une cartographie, en fait, des manifestations en temps réel qui se réclament d'un drapeau étranger, qui se réclament d'une identité étrangère et qui cherchent à occuper l'espace public pour affirmer une souveraineté, pour affirmer une lutte de territoire, pour affirmer une volonté de s'affirmer en tel ou tel lieu. Je pense que, de ce point de vue, on pourrait avoir une vision assez inquiète. On pourrait dire que l'effondrement, c'est pas demain. C'est maintenant. Ces manifestations, pour moi, ne sont pas des luttes sociales au sens traditionnel en France, des luttes sociales pour obtenir différents droits sociaux. Nous sommes devant des volontés de manifester, d'occuper, pardonnez-moi, le territoire, d'affirmer une souveraineté, d'expliquer qu'ici, c'est chez nous et non plus chez vous. De ce point de vue, c'est tout autant le signe de ce qu'on appelle ici le choc des civilisations au quotidien.
Et là, de source policière, il y a un Afghan qui a été interpellé parce qu'il voulait taper des petits blancs. Et il tapait, il s'amusait à gifler des enfants dans la rue.
Il voulait taper les petits blancs?
D'après la source policière, comment on voyait, c'est ça.
Je tiens à rassurer que ce n'est pas du racisme. Ce n'est pas possible que ce soit du racisme anti-blanc. Je le sais d'avance, je tiens à rassurer tous ceux qui oseraient dire cela, ils se trompent.
Et qu'il a tapé un enfant de 12 ans. Qu'est-ce que ça vous évoque? Juste, on ne fait pas de tour de table parce qu'on a beaucoup de sujets, mais vous, Marc Menant, avec votre âme de gauche, est très accueillante. j'ai envie de vous entendre parce que lorsqu'on voit la réaction des Afghans, la réaction de ce jeune homme aussi, qui effectivement, comme le dit si bien Mathieu, il vient à peine d'arriver et il critique déjà celui qui l'accueille, est-ce que ça ne vous interpelle pas aussi?
Mais oui, mais bien évidemment que ça interpelle, mais c'est parce qu'on est au-delà de la générosité de l'accueil. Aujourd'hui, on est malheureusement dans ce principe de submersion. C'est-à-dire que ce n'est pas une porte ouverte et en disant aux gens maintenant, nous allons vous proposer la société d'accueil telle qu'elle existe et voici nos façons de vivre. Donc qu'il y ait une sorte d'apprentissage, d'éveil à notre société, ce qui permettrait d'envisager de pouvoir s'intégrer, de pouvoir vivre en conscience, et n'oubliez pas que théoriquement, quand vous obtenez la nationalité française, après l'avoir réclamée, vous prenez l'engagement de vivre selon les mœurs de la société française. Où sont les mœurs de la société française quand on se comporte comme ça? Vous voyez, on est dans une sorte de folie, mais parce que c'est la submersion.
J'ai quand même envie de faire un tour de table.
Allez-y.
Charlotte, votre regard.
Non, mais il y a un discours sur le fait que des gens le reprennent extrêmement rapidement. Il y a aussi le rôle quand même des associations dans la gestion de l'immigration au premier jour, dès le début et dès même l'arrivée sur le continent européen. Et là, c'est un discours qui est très ouvertement prôné, porté, notamment dans l'accompagnement juridique par rapport aux pays d'accueil, donc la France en l'occurrence. Donc c'est un discours qui est entendu très tôt. Et finalement, le premier contact avec la France et ce discours contre la France lui-même. C'est-à-dire que c'est quand même le premier contact, puisque l'État a délégué lui-même à ses associations la gestion première de l'immigration. Ça, c'est un vrai problème, au-delà de la question que pose... ces associations financièrement, par exemple.
Et pour connaître des jeunes qui ont dû subir, vous savez, le stage où théoriquement on vous fait comprendre ce qu'est la France. La première chose que les responsables transmettent, c'est « vous êtes ici pour vivre selon vos coutumes ». C'est la capacité d'accueil de la France.
Mais je veux dire, oui, mais il y a des limites aussi. Et Dimitri, est-ce que...
Non, mais
lorsqu'on entend tout ça, on se dit « mais dans quel autre pays ?» ça peut se passer comme ça, je veux dire.
Je crois que ça se passe dans beaucoup de pays occidentaux parce que c'est un projet politique, ça doit être un projet de fierté. Et ce qu'on voit, c'est que le projet décolonial, c'est un colonialisme inversé. Colonisons le colonisateur quelque part. On retourne l'arme, on retourne le couteau. C'est ça qu'on voit quand on dit nous sommes ici parce que vous étiez là-bas. Tu vois, c'est comme ça qu'en tout cas je le perçois.
Ouais, belle analyse en tout cas de Mathieu. Dernier mot là-dessus, Mathieu.
Bon, en fait, j'avais oublié une chose, Laurent. J'ai dit un symbole les unifie. C'est le drapeau palestinien. Un deuxième, c'est le voile. Le voile qui est le symbole unificateur de cette résistance anticoloniale, dans leur esprit.
Merci beaucoup pour votre regard. Dans un instant, on parlera avec vous du 21 avril. Hier, c'était le 21 avril. 21 ans plus tard, si j'ai bien compris. Non, 22 ans plus tard, c'est ça, si je compte bien, je ne sais plus. 2002. Non, 22 ans plus tard. Comment analyser 22 ans plus tard ce 21 avril qui a tant marqué. Dimitri, on va parler des institutions avec vous ce soir. Faut-il introduire une dose de proportionnelle aux élections législatives ? À l'occasion hier du 80e anniversaire de la reconnaissance du droit de vote des femmes en France, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, est repartie à la charge sur ce thème qui lui est cher mais qui suscite des hostilités dans son camp. On ne peut pas s'empêcher de dire, Dimitri, qu'il y a aussi un calcul politique pour avantager son camp aux élections. Et dès qu'on parle, et c'est vrai, on a envie de vous entendre parce que dès qu'on parle proportionnel, on dit non, on pense tout de suite au RN en tout cas.
Oui, mais enfin, ça paraît logique qu'un parti qui est au pouvoir défende le mode de scrutin qui va l'avantager aux prochaines élections. Enfin, moi, je veux dire, ça, je ne peux pas faire ce reproche-là. Il y a Yael Braun-Pivet. Enfin, je veux dire, rappelez-vous la droite en 86 qui veut défaire justement la proportionnelle pour s'en procurer un avantage. Charles Pasqua avait passé des années, sur, vous rappelez, sur le redécoupage de la carte ouais. électorale. Mais en fait, je pense que vous allez être assez surprise, Christine, je pense que les téléspectateurs qui nous regardent aussi, du visage qu'aurait eu l'Assemblée nationale que nous avons élue en 2022 avec la fameuse dose de proportionnelle. Alors, on va revenir sur cette expression. Je voudrais juste commencer par dire que cette dose de proportionnelle, c'est l'arlésienne. C'était dans le programme d'Emmanuel Macron en 2017. Il y avait un projet de loi qui était sur le point d'aboutir. On en discutait à l'Assemblée juste avant l'été 2018, juste avant l'affaire Benalla. Ça a un peu fait capoter l'affaire. C'était un projet plus vaste. Il était question de réduire aussi le nombre de députés, de le tomber aux alentours de 400 et de faire élire une partie de ce Parlement restreint à la proportionnelle. C'est revenu en 2021, je ne sais pas si vous en souvenez, et il y avait une échéance, il fallait que ça se fasse minimum un an avant une élection, donc à partir de mai 2021, ça n'avait pas pu se faire. Voilà. Et en fait, il faut dire que ce serait assez facile à adopter de changer le mode de scrutin. Ça demande, c'est pas une réforme de la Constitution, ça demande simplement un vote simple à l'Assemblée nationale, donc ça pourrait se faire. Pourquoi ça ne se fait pas ? Je pense pas qu'il y ait de complot particulier. Enfin, pas de complot. Je ne sais pas si le mot complot est le plus adapté. Il n'y a peut-être pas d'intérêt politique pour la majorité de le faire à certains moments. Peut-être que là, c'est en train de se présenter. En tout cas, ce n'est jamais une urgence politique. Il y a toujours plus urgent à légiférer. Voilà. Alors,
On a fait une loi sur les cheveux, quand même. Hein.
Mais, oui. Proposition de loi.
Oui, mais quand même.
Mais ça venait, c'est une initiative parlementaire. Alors, une dose de proportionnelle, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'on ne ferait pas de la proportionnelle sur l'ensemble de l'élection des députés. Ça voudrait dire qu'on panacherait le mode de scrutin avec le système actuel que nous avons. En fait, c'est quoi élire son député ? C'est une mini-présidentielle à l'échelle de sa circonscription. Vous avez des candidats, ceux qui font plus de 12,5% au premier tour passent au second. C'est pour ça que vous pouvez avoir des triangulaires ou des quadrangulaires. Et à la fin, c'est celui qui fait le plus gros score qui remporte le siège. Scrutin uninominal, un nom, majoritaire à deux tours. La proportionnelle, ce n'est pas tout à fait le même fonctionnement. On va voir ça dans un instant.
Ah oui, non, mais votre chronique, elle est magnifique. On va voir effectivement ce que ça changerait, la proportionnelle. On se voit dans un instant. On marque une toute petite pause. Je vais vous montrer les images des drapeaux français. Où est-ce qu'ils se trouvent ? Devinez où ? Ouh, je vais vous montrer. On a des images de drapeaux français. Pas sur le territoire hexagonal. Et je vais vous faire une petite surprise. Le livre qui a bouleversé chacun des mousquetaires. J'en parle dans ma chronique du journal du dimanche. Et j'ai emmené le livre. Je l'ai acheté pour vous. Allez, on marque une pause. À tout de suite. Alors, devinez quel est le livre qui a embarqué, emporté chacun des mousquetaires vers l'âge de 10-11 ans. Hashtag face à l'info. Je vous dévoile le résultat dans un instant. Alors, Dimitri, on est en train de parler de la proportionnelle. On se disait qu'il y a le bon privé, elle pense à la proportionnelle, elle est pour, et on se demandait pourquoi et à quoi ça pourrait ressembler une dose de proportionnelle.
Alors, une dose de proportionnelle, pourquoi une dose? C'est rigolo cette expression, une dose.
Oui, c'est vrai, une dose.
Pour dire une fraction de proportionnelle.
C'est vrai, pourquoi une dose?
Oui, parce que sinon, soit on fait la proportionnelle intégrale.
Ben oui.
Ben la proportionnelle intégrale, c'est les élections européennes, vous voyez? C'est-à-dire qu'on fait un scrutin, non mais pour simplifier, mais en gros, on fait un scrutin national, on regarde le pourcentage que fait chaque parti politique, on fait une règle de 3 et on attribue le nombre de sièges en fonction du poids électoral de chacun des partis. La dose de proportionnelle, ce serait de dire, alors c'est la proposition d'Yael Braun-Pivet, ce serait de dire une partie des sièges de nos députés serait attribué à chaque formation politique en proportion des voix obtenues par leur candidat à l'échelle, bon, en l'occurrence, disons, d'un département. Vous savez que dans un département, vous avez plusieurs circonscriptions, vous avez un nombre variable de députés par département selon leur poids démographique. Alors, ce que dit Yael Braun-Pivet, c'est introduisons de la proportionnelle dans tous les départements qui élisent plus de 11 députés. Et c'est peu ou prou le système qu'on a au sénatorial. On vote pas, nous, pour les sénatoriales, parce que c'est un suffrage indirect, mais au sénatorial, vous avez 54 départements qui désignent 3 sénateurs ou plus, donc ce sont les départements les plus peuplés. Ceux-là procèdent à des élections sénatoriales à la proportionnelle. Donc, regardez, vous avez la carte des départements, en l'occurrence, qui seraient concernés par la réforme si jamais on l'appliquait.
Expliquez-nous.
Donc là, en rouge, vous voyez les départements qui envoient à l'Assemblée nationale plus de 11 députés chacun. Donc vous avez Paris qui envoie par exemple 18 députés, vous avez les Yvelines dans l'Ouest parisien qui en envoie 12, vous avez les Bouches-du-Rhône, vous avez le Rhône, vous avez la Gironde, vous avez les Nord-Pas-de-Calais, le Nord et le Pas-de-Calais, pardon, et puis vous avez donc toute l'Île-de-France. Voilà. Donc sur ces 11 départements, ça représente en tout 152 députés. Donc vous voyez, un quart de l'Assemblée nationale quand même qui serait élu à la proportionnelle si on appliquait la réforme que préconise Yael Braun-Pivet. Alors concrètement, qu'est-ce que ça changerait ?
Qu'est-ce que ça changerait ?
Voilà. On prend un exemple. Prenons l'exemple de Paris. On prend les législatives de 2022. Oui. Paris, c'est 18 députés en 2022, donc oui. 18 sièges à pourvoir. On a, au scrutin 2022, vous voyez, c'est pas compliqué, vous avez 9 NUPES, vous avez 9 députés Renaissance. Si l'on procédait à la proportionnelle, à ce moment-là, vous voyez, ça change complètement. Vous n'avez plus que 8 NUPES. La majorité présidentielle perdrait 2 sièges et là vous verriez surgir 2 députés Les Républicains LR qui avaient disparu à la dernière législative du tableau parisien et vous auriez un élu Reconquête. Voyez ? Alors que Reconquête n'en a aucun actuellement dans l'actuelle assemblée. Voyons un autre exemple, les Yvelines. J'ai pris volontairement ces deux départements parce qu'ils sont très à l'avantage de la majorité présidentielle. Alors là, vous voyez, on ne peut pas faire plus avantageux pour la majorité présidentielle. Sur 12 députés, vous en avez 10 qui sont des députés macronistes. Vous en avez 2 NUPES. Avec la proportionnelle, vous voyez, les cartes sont totalement rebattues. Je vous ai mis 4 NUPES. En fait, ce serait soit 4, soit 3 NUPES et 1 Reconquête. Donc déjà, nous aurions 2 députés zémouriens à l'Assemblée nationale dans un scénario de proportionnelle cantonné à ces départements les plus peuplés. Vous n'auriez plus que 5 députés de la majorité présidentielle, donc vous voyez, c'est pas une très bonne affaire quand même pour la Macronie. 2 LR et donc un député Rassemblement National dans les Yvelines. Donc, alors, je vous ai montré ces exemples-là. On voit que dans d'autres départements, là, ce serait un petit peu plus à l'avantage de Renaissance. Par exemple, la Seine-Saint-Denis, vous n'avez aucun élu Renaissance. Là, ils auraient un siège. Dans le Pas-de-Calais également, le RN perdrait un siège à l'avantage de Renaissance. Voyez. Donc, c'est assez instructif. On voit que c'est pas forcément à l'avantage du camp présidentiel. Je dirais même bien au contraire. Alors maintenant, regardons à quoi ressemblerait l'Assemblée nationale. Si, Mathieu, je vous vois hocher la tête en contestant ce que je dis, mais regardez. À quoi ressemblerait l'Assemblée nationale
avec la proportionnelle,
avec la règle Braun-Pivet,
oui.
C'est-à-dire avec cette règle, les députés envoyant plus de 11 députés à l'Assemblée nationale, on est à la proportionnelle. Alors, les petits malins qui vont me dire « Oui, mais regardez, il n'y a pas 577 députés dans votre Assemblée. » Je sais, ce sont les chiffres de l'Assemblée, ce sont les projections de l'Assemblée, c'est précisé avec les chiffres hors Outre-mer. Voilà, ça c'est pour la précision.
Sympa.
Voilà, c'est important de le préciser. Mais vous voyez, qu'est-ce que l'on voit? C'est que avec la dose de proportionnelle, nous aurions une majorité relative qui serait encore plus relative, et nous aurions des oppositions qui seraient sensiblement plus fortes. Donc c'est pas non plus la révolution, mais regardez pour LR. 9 sièges de plus pour LR dans un scénario avec dose de proportionnelle. Le Rassemblement national serait tout près des 100 députés. Et la NUPES serait, elle, encore un petit peu plus solide.
Ah, mais alors, quel avantage tireraient les macronistes d'une telle réforme si elle signifie moins de députés pour eux, finalement? Je ne comprends pas.
Mais, alors, c'est pour ça que je pense qu'à travers cette... Il y a un calcul politique, j'y viens.
Ah.
Vous avez d'ailleurs vendu la mèche dans le lancement,
ah
pour
bon
ceux qui étaient au début de l'émission, mais c'est très bien. Je crois qu'on peut aussi croire, il y a une Braun-Pivet sincère, lorsqu'elle nous explique qu'en fait, il faut faire cette réforme tout simplement pour que l'Assemblée, elle ressemble un peu davantage aux Français. Voilà, qui représente mieux, que cette Assemblée représente mieux les forces politiques en présence en France. Vous savez, elle est engagée politiquement, elle est militante de la formation présidentielle. Je pense que c'est aussi une femme d'État en tant que présidente de l'Assemblée nationale, et c'est bien de lui reconnaître, cela. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut se satisfaire d'un mode de scrutin qui, quand même, pendant des décennies, a barré la route du Parlement à des formations politiques qui faisaient 15, 20, 25% des voix à l'échelle nationale et qui, à la fin, se retrouvaient sans aucun député ou très très peu. Vous pensez au Rassemblement, au Front National et ensuite au Rassemblement National. Est-ce qu'on peut se satisfaire d'un système politique comme celui-là? Est-ce qu'à l'inverse, on peut se satisfaire qu'une formation politique qui fait 25-30% des suffrages rafle jusqu'à 50% des sièges? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que ça, c'est ce que nous voulons, Français, sur un plan démocratique, voyez? Donc là, on voit que la proportionnelle, elle est supérieure au système majoritaire en termes de justice politique, en termes de représentativité. En revanche, la proportionnelle a un très gros défaut, c'est qu'elle a tendance à déconnecter nos élus de la circonscription. Je m'explique, c'est que dans le système majoritaire, je vous ai dit, c'est une petite présidentielle. Donc on a le député... est ancré territorialement, parce qu'il a gagné cette élection sur tous les autres. Et c'est son visage qui a fait gagner son parti politique. Dans le système proportionnel, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que vous, en tant qu'électeur, vous glissez un bulletin pour des idées, pour un parti politique, et finalement, le député qui vous représentera, il n'a pas tellement d'importance. Ce ne sera pas tellement le député de votre circonscription, ce sera un des députés de votre département. Donc il n'y a pas de système qui ait tous les avantages. Alors pour revenir au calcul politique, parce que finissons par là quand même, c'est quand même assez frappant que, de voir que quand on fait le calcul, imaginons que ce soit Marine Le Pen qui arrive à l'Élysée en 2027. Est-ce qu'elle aurait intérêt à ce système proportionnel dont on dit qu'il la favoriserait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, s'il était appliqué totalement, partiellement ou intégralement? En fait, on se rend compte que non. Parce qu'on voit que tous les présidents de premier mandat, finalement, à travers les législatives qui suivent derrière, décrochent une majorité de confirmation qui pourrait se retrouver considérablement relativisée pour Marine Le Pen dans le spectre, dans l'hypothèse de son élection à la présidence de la République en 2027. Donc il y a peut-être un calcul de la part des macronistes de se dire ça limiterait la casse quelque part. La défaite qui pourrait leur arriver pour le candidat macroniste en 2027 serait, comme cela, relativisée. En fait, la proportionnelle a tendance à tempérer, à diluer finalement le dégagisme. Et vous l'avez dit en introduction, c'est quand même frappant, c'est que la proportionnelle, on l'a refusée pendant des décennies pour contenir le Rassemblement national, parce que c'était prendre le risque d'inonder le Parlement de députés frontistes, de députés lepénistes. Et là, on est en train de nous expliquer que la proportionnelle, c'est absolument ce qu'il faut faire pour contenir Marine Le Pen et le Rassemblement national. Donc comme le dit Mathieu assez souvent, c'est fou de voir que le système politique, finalement, son baromètre, c'est la santé du Rassemblement national, la santé de l'extrême droite. Et je le dis un petit peu moins bien que Mathieu, mais vous avez saisi l'idée.
Le faire breveter, l'extrême droite.
Excellente analyse. Alors justement, restons sur le Rassemblement national, puisque Marine Le Pen, elle est à Mayotte, et moi, je ne comprends pas Mathieu Bock-Côté. Les drapeaux français sont à Mayotte. Regardez les images. Les drapeaux français sont à Mayotte. Ils ne sont pas dans les rues de Paris. Ils sont à Mayotte. Rappelons qu'ici, ce sont des Mahorais musulmans à 95%, racisés pour la plupart, un accueil très chaleureux pour Marine Le Pen. Ils sont racistes ou ils n'ont pas compris? On a déjà parlé, mais je repose la question, Mathieu Bocoté.
Mais j'ai l'impression que du point de vue de la gauche, nous sommes devant une espèce de bris cognitif. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent tout simplement pas ce qui peut se passer en ce moment. Dans des gens qui sont censés être les victimes, les persécutés du RN, qui finalement se reconnaissent en lui partiellement, je pense qu'ils ne peuvent pas comprendre.
Et regarde, on va plus loin. On va écouter une dame qui a accueilli Marine Le Pen. Elle dit que nous comptons sur vous pour parler au gouvernement. C'est assez lunaire.
Depuis des années, Cavani est gangréné par des violences urbaines. L'axe de boulevard Marcel-Henri est un coup d'orge pour nous et nos enfants. Nous comptons sur vous, car nous savons que vous êtes capable d'attirer l'attention du gouvernement sur la gravité et l'indignité de cette réalité. Je vous remercie.
Ce qui est étonnant, c'est que les écologistes et les gens de gauche ne comprennent pas le problème. N'oubliez pas qu'il n'y a pas assez d'eau sur place. C'est-à-dire qu'on fait monter de plus en plus de gens sur le navire alors qu'on sait qu'il n'y a pas les capacités vitales pour que tout un chacun puisse envisager son quotidien. C'est une folie invraisemblable.
Et Charlotte, par exemple, en hélas, on a vu par exemple ce week-end Stanislas Rigaud de Reconquête, lui, tabassé à Paris. Enfin, on lui a craché dessus, agressé à Paris, on lui a craché dessus. C'est paradoxal. L'accueil là-bas, dans un monde musulman français racisé, et ici, dans l'Hexagone, où on crache par exemple sur quelqu'un comme Stanislas Rigaud, c'est assez choquant.
En fait, c'est paradoxal par rapport à la doxa ici, qui est complètement hémiplégique, mais évidemment qu'il n'y a pas une couleur de peau ou une religion pour s'inquiéter de l'insécurité ou d'une immigration qui déborde absolument vos capacités. En fait, c'est ça que nous prouve Mayotte, en l'occurrence, et ça se passe absolument partout dans le monde. Hein. C'est-à-dire qu'il ne voit qu'une partie de la réalité, mais vous allez dans énormément de pays ailleurs qu'en Occident, ils s'inquiètent évidemment de la question de l'immigration, notamment illégale, lorsqu'elle devient massive, et ils s'inquiètent aussi de la question de la sécurité, qui est une prérogative de tous les États du monde, évidemment.
Après, je dirais que Mayotte, c'est si petit que malheureusement, vous ne pouvez pas échapper à l'insécurité, à la gravité de ce qui se passe là-bas. Enfin, on a parlé 10 fois ici, il y a des corps démembrés sur les routes quand même. Pour terroriser tout le monde. Donc à partir de là, nier l'insécurité, c'est quand même extrêmement compliqué. Par contre, le sentiment d'oubli, je pense qu'il s'exprime aussi à travers ça. Marine Le Pen, qui est perçue comme une sauveuse, hein, avec cette idée, peut-être qu'avec elle, ce qu'on demande depuis des années, on l'aura. Moi, je vois une forme de désespoir, en fait, dans cette popularité de Marine Le Pen là-bas.
Marc Menant, revenons à la manifestation d'hier à Paris contre les racismes et l'islamophobie. On en parlait tout à l'heure avec Mathieu Bocoté. Des portraits de personnalités de CNews et de C8 ont été pris pour cible, comme Jean-Marc Morandini qui a répondu ce matin sur notre antenne, ou encore Cyril Hanouna. La question que je posais en titre, c'est: n'est-on pas là dans une dérive sectaire, un appel à la haine, une dérive sectaire dangereuse pour la démocratie, dont ils ont eux-mêmes l'impudeur de se dire victimes?
C'est ça qui est terrifiant. Je dirais que ce sont des affiches abjectes. Il est écrit « L'extrême droite vous parle 24 heures sur 24 ». Le portrait d'Hanouna, le portrait de Morandini. Alors déjà, c'est quand même oublié que Hanouna a contribué à son corps défendant ou à son esprit défendant à l'élection de Boyard, etc., etc. Il y a au moins 3 députés et les filles qui lui doivent sa place. Alors ils sont
comme Garrido, Boyard, qui étaient ses chroniqueurs.
Voilà, qui étaient ses chroniqueurs. Il n'existait pas. Il leur a donné une image et c'est cette image qui leur a valu les votes. Quel manque de reconnaissance. Bon, ça c'est le premier point. Mais c'est surtout que c'est dramatique. Ça nous rappelle quoi? C'est le Far West. C'est Wanted. Regardez ces énergumènes. Il faut les éliminer. C'est ça que ça veut dire. Et dans un contexte où vous voyez de plus en plus des énergumènes qui sortent le couteau sans le moindre prétexte, qui se sont laissés emporter par je ne sais trop quelle déviance mentale ou par une conviction quelle qu'elle soit, et ils sont capables de tout. Donc ça signifie, en brandissant de telles pancartes, d'encourager des gens à aller agresser, que ce soit notre camarade Morandini ou Hanouna. C'est abject et c'est incroyable que personne ne prenne position contre ça en disant « Mais arrêtez,
Il faut savoir si on est là pour débattre des idées ou on est là pour nourrir la haine, si on est là pour briser la France.
Cela même était victime de censure et criait justement manque de liberté d'expression.
Ah bah non, mais ça aussi, c'est extraordinaire. Mais c'est parce que c'est l'inversion généralisée. Mais après, faisons de l'histoire, puisque M. Mélenchon se targue d'avoir une grande culture. M. Mélenchon, il aime bien nous rappeler quand Robespierre, etc., etc. Alors, je n'ai pas le temps de vous faire l'histoire de l'anticléricalisme. Il n'en reste pas moins que si la laïcité émerge un jour, c'est bien parce qu'il y a d'abord eu Gambetta, il y a eu Jaurès et des personnages qui demandaient à ce que la religion puisse se restreindre afin que la liberté d'opinion s'exprime dans l'ensemble du territoire. Et cet anticléricalisme a été d'une virulence jusque dans les années 60. Et il y avait pour, je dirais, mieux l'enraciner, ce fondement qui était la loi de 1905. Alors là, il va nous falloir prendre un petit élément. Dans les années 70, on a fait appel à énormément de Maghrébins et de Turcs pour répondre à la demande de production des automobiles. Alors c'était à Aulnay-sous-Bois, c'était à Saint-Ouen, c'était à Poissy, soit chez Citroën, soit chez Talbot, soit chez Peugeot. Et sans que personne le sache, on a atteint dans certaines usines entre 50 et 75% de gens qui étaient de confession musulmane et qui ont instauré une façon d'être en oubliant qu'ils étaient venus non pas dans un pays pour vivre leur foi, mais pour participer sans doute à un effort économique qui se faisait, comme le criait Georges Marchais, aux dépens du monde ouvrier. Et alors, dans ces usines-là, on a vu émerger des syndicats, la Confédération des syndicats libres. Ça veut dire quoi ? C'était des gens de droite et du patronat qui faisaient en sorte d'éliminer la CGT, que la CGT qui représentait le monde ouvrier et la menace communiste soit exclue de toutes les revendications de ce personnel. Et la gauche prend le pouvoir, la situation économique est catastrophique, on produit trop de voitures, on licencie. Et en 1982, le 22 avril, quel hasard, eh bien vous avez à Saint-Ouen le débrayage dans les usines Citroën. Que réclament ces ouvriers ? Alors ils réclament 400 francs à l'époque, 400 francs d'augmentation, une semaine de congé. Du social, mais également une salle de prière. Car il se trouve que dans ces usines, on a pris l'habitude de décrocher, selon les rituels de la religion de l'islam, aux heures des prières. Et là, sur les chaînes, on se laisse aller à cette incantation vers le céleste. On demande aussi à ce que les règles changent pendant le ramadan. Et la CGT, qui jusque-là était dans cet anticléricalisme qui représentait le communisme, eh bien, elle vire sa cutie pour essayer de récupérer le mouvement au moment des négociations. Et c'est comme ça que l'on va avoir une inversion du principe de la gauche qui est contre la religion dans l'espace public et qui devient multiculturaliste. Et toutes les positions durant les élections, que ce soit du Parti socialiste, que ce soit des écologistes, etc., qui demandent à ce que ce soit les voix de la religion, entre guillemets, qui puissent s'exprimer et qui soient reconnues. Voilà ce principe d'inversion extrêmement pervers et qui conduit aujourd'hui, je dirais quand même, il faut le reconnaître, à des sortes de fatwas sur des garçons qui font leur métier simplement en exposant certaines situations et qui ont permis à beaucoup de gens d'émerger en politique, je rappelle, et qui sont éléphistes.
Merci beaucoup Marc Menant pour votre regard. Je disais tout à l'heure que je voulais vous montrer le livre qui a bouleversé chacun de nos mousquetaires. Je fais vite parce que Charlotte Dornelas a beaucoup de choses à nous dire sur la politique familiale. Alors ça, devinez qui ? Jean Jaurès, 1984. Qui est-ce que ça a bousculé ?
Non, c'est pas le bon à l'écran.
Ah non, c'est pas le bon. Alors, c'est le livre de Mathieu Bocoté. Il vous a empêché de dormir quand vous l'avez lu. Vous aviez quel âge?
Ouais, c'est jeune quand même, autour de 12-13 ans. Je précise je préfère l'ancienne traduction parce que la nouvelle est un peu politiquement correcte.
D'accord.
Donc, le mot novlangue apparaît dans l'ancienne traduction. Néo-parlé, on dit dans la nouvelle. Donc, vive 1984.
Vive 1984. Le livre qui a bousculé Charlotte Dornelas, Alexandre, le déclin du courage. Et vous aviez quel âge lorsqu'il vous a bouleversé?
Je ne sais pas, je devais être un peu plus âgée quand même, mais je ne sais pas, 15 ans, je pense.
Ouais, ouais.
On m'avait offert ce livre, c'est incroyable. C'est très petit.
Oui, ça fait
je dis ça pour les gens qui veulent le commander, ça se lit très vite et il y a, je pense, à peu près tout, en fait, de ce qui nous arrive.
Celui qui a bouleversé Dimitri Pavlenko, là, c'était quand vous étiez à Cannes.
Oui, c'est quand j'étais en Cannes.
Pas à Cannes.
Non, j'étais pas à Cannes.
Robert Antelme, L'espèce humaine.
Voilà, c'était le compagnon de Marguerite Duras, c'est la littérature des camps. Et, enfin, on a lu beaucoup, si c'est un homme, de Primo Levi, il faut lire Robert Antelme, L'espèce humaine, sur la déshumanisation notamment. Enfin, c'est un livre qui m'a changé.
Mm-hmm. Vous en parlez avec émotion, ça se sent. Mm-hmm. Celui-ci, c'est celui qui a bouleversé Guillaume Bigot, Victor Hugo, 93, La Révolution. Oui. Oui, rien
ça m'étonne pas, tiens.
Bien, profitons pendant qu'il n'est pas là, ça ne m'étonne pas du tout. Et puis un autre Victor Hugo, ça c'est pour vous, Marc Menant. Celui-là aussi vous a bouleversé.
Ah ouais,
ça vous plaît, ça m'étonne pas.
L'homme qui rit, c'est extraordinaire, c'est d'une imagination débordante, le style florissant. Et on ne peut pas, quand on a cette adoration pour de notre langue, s'enticher d'un autre livre que de celui qui porte le verbe, comme le fait si bien la plume de Victor Hugo.
Vive,
et puis que d'originalité.
Merci. On n'a pas le temps, je sais que vous pourriez parler pendant des heures. En tout cas, très intéressant de voir un peu le livre qui vous a bouleversé. Moi, j'en ai pas, je ne savais pas lire. Charlotte Dornelas, en 2023, le gouvernement avait annoncé son intention de porter le délai de séjour en France à 9 mois avant de toucher les allocations familiales. Est-ce que c'est chose faite? Parce que hier, un décret est paru.
Oui, alors vous vous souvenez, Gabriel Attal, pendant de longues années, peut-être pas, mais des longs mois avant de devenir Premier ministre, il s'était vraiment attaqué à la fraude sociale, il avait expliqué, enfin dans les mots en tout cas, il fait plusieurs discours en expliquant qu'il allait s'y attaquer, et il avait fait cette annonce dans le cadre de son plan de lutte contre la fraude sociale, et c'est dans un décret qui est paru dimanche que la chose est actée. Donc en effet, jusqu'à maintenant, vous pouvez toucher les allocations familiales en vivant 6 mois par an en France.
Oui.
Et il faudra désormais en passer 9 par an.
Mm-hmm.
Alors juste notons que, en l'occurrence, ça n'a rien à voir avec la fraude. Il l'avait annoncé dans ce cadre-là, mais si vous voulez, les gens qui touchaient les prestations familiales parce qu'ils avaient passé 6 mois de l'année en France, ils ne fraudaient pas, c'était conforme à la loi. Donc c'est juste un changement de règle en réalité. D'accès, ça a beaucoup plus à voir, un, avec l'attractivité à la limite et surtout avec la générosité du modèle social français. Alors, ça concerne toutes les prestations familiales, des allocations familiales jusqu'à la prime pour la naissance d'un enfant, par exemple, et ça touche également le minimum vieillesse qui est présent également dans le décret. Et Gabriel Attal nous avait dit qu'en gros, il voulait harmoniser à 9 mois, que c'est déjà le cas pour le RSA, vous devez passer 9 mois de l'année en France pour le toucher, les APL, c'est 8 mois. Il avait expliqué qu'il voulait harmoniser tout ça à 9 mois. Mais notons aussi que la mesure s'arrête là, puisqu'il y a certaines prestations qui ne rentrent pas du tout dans ce cadre-là. Par exemple, la protection universelle maladie, dont on a déjà parlé ici, la PUMa, l'ancienne CMU, qui, elle, n'est pas soumise aux mêmes règles, par exemple.
Alors, cette question, Charlotte Dornelas, de la politique familiale revient très souvent dans l'actualité. Certains réclament de la renforcer, d'autres de la réduire, certains de la conditionner. Comment s'y retrouver?
Oui, et parfois, ce sont les mêmes. On a l'impression d'un sujet à l'autre qui demande parfois de la réduire, parfois de l'augmenter. Bon, alors, on va mettre de côté ceux qui s'imaginent que l'argent coule à flot en permanence et que donc on peut le redistribuer sans aucune limite. Ça, on le met de côté. Et en réalité, on comprend que la politique familiale est à la croisée de plusieurs sujets politiques qui sont également pertinents. C'est-à-dire que, un, pour reprendre votre exemple, de certains réclament de la renforcer, d'autres de la réduire, d'autres de la conditionner, on peut vouloir les choses selon des situations différentes. La première qui se pose, c'est la question de la natalité et donc de la politique familiale. On en avait peu parlé, mais certains députés avaient tenté d'en parler au moment de la réforme des retraites pour une raison assez simple. C'est-à-dire qu'on a un modèle de redistribution, en l'occurrence les actifs travaillent et financent pour payer la retraite de ceux qui ne le sont plus. Si vous avez moins d'actifs que de personnes qui sont à la retraite, assez rapidement, vous posez la question des actifs. C'est la seule question qui était interdite pendant cette réforme. C'était assez original, mais finalement, c'était assez français. Sur ce point-là, alors évidemment, on pourrait appeler nataliste cette question de la natalité, de la politique familiale pour encourager la natalité. Et ce seul mot génère en France un blocage idéologique qui est, à mon sens, assez absurde, puisque en général, on vous dit, Sandrine Rousseau, qui nous avait dit « l'État n'a pas à se mêler de nos utérus ». Que tout le monde se rassure, c'est vraiment pas la question. La question d'une politique familiale qui a été mise en place, notamment au début du siècle en France, et qui avait très bien fonctionné jusque assez récemment, c'est évidemment pas d'obliger qui que ce soit à avoir un enfant ou un enfant de plus, c'est simplement de constater qu'entre le nombre d'enfants que les Français ont et le nombre qu'ils aimeraient avoir, il y a un hiatus, et que donc l'État peut être présent à ce moment-là pour aider éventuellement financièrement, d'abord pour aider ces personnes-là, mais surtout pour investir sur son avenir, parce qu'accessoirement, les enfants des uns sont l'avenir du pays tout entier, si on regarde ça collectivement. Donc c'est évidemment le sens de cette politique-là. Il y a un blocage total en France. Donc là, sur ce terrain-là, il y a des gens qui, en effet, voudraient augmenter la politique familiale pour soutenir la natalité dans le pays. La deuxième question qui se pose par rapport à ça, c'est la question de l'attractivité du modèle social français, et notamment familial, mais c'est beaucoup plus large. Et là se pose la question de l'État-providence, même de la question de la redistribution sans limite des gens à qui vous la redistribuez. C'est vrai de tout le système. Cette fois-ci, on en avait parlé au moment de la loi immigration, et cette fois-ci, c'était les mots « préférence nationale » qui avaient rendu le débat absolument impossible. On est un peu binaire hein, dans ce pays. Vous dites nataliste, tout le monde se met à hurler. Vous dites préférence nationale, tout le monde se met à hurler. Et le débat devient impossible. En l'occurrence, quel est le débat? C'est de se dire concrètement, quand vous prélevez une somme d'argent à un nombre limité de personnes qui vivent en France, essentiellement des Français et parfois des étrangers qui travaillent en France, si vous avez un nombre limité de contributeurs, vous ne pouvez pas partir du principe que le nombre de bénéficiaires peut, lui, être illimité. C'est juste ça la question, en l'occurrence, qui se pose. Et par ailleurs, la préférence nationale, quand on nous explique que c'est raciste ou xénophobe, la préférence nationale se base sur la question de la nationalité. Je referme la parenthèse. Et donc, là, en l'occurrence, la question qui se pose, c'est dans la générosité du modèle, la question de la discrimination. Encore un autre mot qui est inimaginable. Discriminer en politique, c'est simplement traiter différemment des situations différentes. Et je signifie à tous nos amis de gauche qui se mettent à hurler quand on parle de ça, qu'en l'occurrence, ils le font parfaitement bien entre les riches et les pauvres, par exemple. Même sur le terrain des prestations sociales. Ils font la distinction entre les deux sur le terrain de la politique familiale. Ils ont milité pendant des années et des années, par exemple, pour casser, ce qu'avait fait François Hollande, l'universalité de la politique familiale. C'est-à-dire que vous recevez de l'aide de l'État, quel que soit votre niveau de revenu, quand vous avez un enfant. Ce qui, en l'occurrence, peut aussi se discuter, parce qu'un pays a évidemment intérêt à ce que toutes les classes sociales différentes se renouvellent pour l'avenir de son pays. Qu'on puisse passer de l'une à l'autre, ça c'est une autre question, mais en l'occurrence, vous avez besoin de tout le monde pour poursuivre votre pays. En l'occurrence, c'est une question qui ne les gêne pas sur ce terrain-là et qui les gêne sur la question de la nationalité. Qu'on fasse la différence en France ou au Mali, hein, entre un Malien et quelqu'un qui vient de l'étranger, en France, entre un Français et quelqu'un qui vient de l'étranger, enfin même pas qui vient de l'étranger, qui est étranger, en l'occurrence, c'est déjà inimaginable. C'est original quand vous êtes en train de parler de redistribution de l'argent des Français, en l'occurrence. Et la troisième question qui se pose cette fois-ci, c'est la question du mérite dans l'attribution de ces prestations sociales. En l'occurrence, vous disiez, certains veulent les conditionner. Bon, là, c'est la question qui s'est énormément posée ces derniers temps sur la question des parents de délinquants, voire des délinquants eux-mêmes, puisque parfois les parents eux-mêmes sont pris dans la délinquance. Est-ce que tous les parents, selon l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, méritent l'argent de l'État sur le terrain familial? Là, encore une fois, il faut se poser la question du bien fondé de cette générosité sur le terrain familial. Pourquoi est-ce que l'État met en place une politique familiale? Parce que la France, par le biais des Français, puisque ça n'est jamais que l'argent des contribuables français, donc par le biais des Français, la France considère qu'aider dans l'éducation, qu'assister financièrement des parents dans l'éducation de leurs enfants, c'est évidemment consolider son avenir. Quand vous avez des parents qui contreviennent de manière volontaire et de manière évidente, et c'est pour ça que ça se passerait devant un juge, évidemment, quand ils contreviennent à l'éducation nécessaire à l'avenir de votre pays, alors pourquoi est-ce qu'il faudrait continuer à accorder cet argent qui est fait pour une éducation qui n'est volontairement pas donnée? Je précise volontairement parce qu'il y a des parents, on nous dit tout le temps, oui mais il y a des parents qui sont dépassés. Mais si c'est devant un juge, précisément, c'est cette situation qu'on va examiner. Mais je reprends mon exemple de Cannes. Quand vous avez les parents eux-mêmes qui donnent un alibi inexistant, faux, à leur fils qui vient de renverser une vieille dame à la police, là, peut-être qu'on a un problème d'éducation très clair qui apparaît aux yeux de tous. Donc, finalement, ces trois questions apparemment contradictoires ne le sont pas. Elles appellent simplement à penser globalement le système, là en l'occurrence des prestations familiales, avec ce que l'on veut faire des familles et ce que l'on veut faire de l'argent à investir pour l'avenir de la France.
Assez rapidement peut-être, parce que j'ai une petite séquence à vous montrer de ce qui se passe à Sciences Po en ce moment, dans un instant. Mais ma dernière question, Charlotte, nous entendons aussi le discours selon lequel il faudrait limiter le nombre de naissances parce que nous sommes trop nombreux, que c'est mauvais pour la planète. Comment s'en sortir ?
Mais cette politique-là, elle est imaginée au niveau mondial et non pas national. Et donc, elle est inexistante parce qu'aucun de ceux qui portent ce discours-là aujourd'hui, c'est vrai à l'échelle du monde, ça n'est pas vrai en France puisqu'on a en parallèle un débat sur la dénatalité et sur le problème de notre modèle. Après, on peut changer de modèle aussi social, hein. Mais là, en l'occurrence, dans ces circonstances, et par ailleurs, ce sont parfois et souvent les mêmes qui nous expliquent que pour contrer la chute des naissances, il faut compter sur l'immigration. Donc, il faut bien des naissances, il y en a par ailleurs dans le monde, et donc on va les importer, parce que nous, si on a des enfants, la planète ne peut pas s'en remettre. En clair, on a un mouvement croisé entre deux choses. Un, une crise existentielle de l'Occident, c'est-à-dire une fatigue de vivre de l'Occident, doublée d'une volonté de restreindre la politique familiale par détestation, en l'occurrence de ce soutien à la famille. C'est ce qui s'est passé ces 12 dernières années de manière très claire sur le terrain de la politique familiale. Et d'un autre côté, en 20 ans, le nombre de naissances en France d'un parent étranger ou de deux parents étrangers a considérablement augmenté, alors que celui de deux parents français a considérablement baissé. Preuve d'ailleurs que ce n'est pas d'abord une question d'argent, mais d'abord, évidemment, il y a un élan vital qui, lui non plus, n'est pas entretenu politiquement, c'est le moins qu'on puisse dire, en France.
Merci beaucoup, Charlotte Dornelas, pour votre analyse. Donnez-moi quelques secondes, vous permettez. Regardez un peu les quelques petites images de ce qui se passe à Sciences Po, où Jean-Luc Mélenchon tient une conférence depuis 19h30, un peu chahuté. Écoutez. Voilà, donc on entend bravo Rima, Sciences Po est avec toi. Alors, Jean-Luc Mélenchon a été aussi critiqué de son côté. La conférence a été donc très perturbée par des individus aussi qui ont crié Mélenchon complice. Voilà, pour vous montrer un peu ce qui se passe en ce moment. Mathieu Bocoté, on ne peut pas ne pas s'arrêter sur ce qui s'est passé le 21 avril 2002, d'autant plus que l'ancien ministre Clément Beaune, ce week-end, a voulu rappeler à tout le monde que c'était un moment important de sa vie politique quand Jean-Marie Le Pen s'est qualifié pour le second tour à la surprise générale. Vous souhaitiez revenir sur ce tweet?
Alors oui, le tweet de Clément Beaune, c'est le tweet classique de cette gauche qui rappelle son entrée en politique pour cause de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle en 2002. Et c'est présenté comme un grand traumatisme. Le traumatisme qu'il a fallu surmonter, le traumatisme qui justifie l'engagement de toute une génération. Et c'est présenté comme un grand moment de soulèvement démocratique. La France, alors, a fait barrage au nom de la démocratie. On s'en souvient notamment avec les méthodes suivantes, hautement démocratiques. Par exemple, le refus du candidat principal de débattre avec son adversaire au moment pour le deuxième tour. Il n'y a rien de plus démocratique que de refuser un débat avec l'adversaire. On est tous d'accord avec ça. De la même manière, on se rappelle la mobilisation totale de la société, des lycéens, des collégiens qui étaient invités à manifester dans les rues contre le résultat démocratique des uns des autres, parce que mobiliser la jeunesse en toutes circonstances pour hurler des slogans, ça aussi c'est l'autre nom du soulèvement démocratique. À partir de là, un récit médiatique s'est installé depuis 2002. Le véritable danger, c'est non pas le résultat, c'est non pas ce qui a conduit tant de Français à voter pour le FN à ce moment-là, mais le fait qu'ils aient voté pour le FN. Voilà pourquoi il fallait se mobiliser. Et de ce point de vue, n'est-ce pas la marque d'une démocratie exemplaire que de refuser la possibilité même d'une opposition avec laquelle on pourrait débattre? C'est un souvenir comme un autre de ce grand moment démocratique.
Mais que retenir de cette élection? Car elle nous est présentée comme un grand moment de résistance démocratique.
Bah, on peut dire heureusement que Jacques Chirac l'a emporté avec une telle majorité parce que ça a permis de renverser la situation et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. En 22 ans plus tard, l'antisémitisme recule. Ah non, il progresse, c'est vrai, par l'islamisme. 22 ans plus tard, les territoires perdus de la République ont été reconquis. Ah non, ils se sont multipliés. L'immigration est enfin maîtrisée au moins. Ah non, ça non plus, ça n'a pas fonctionné. La société a au moins jugulé la violence. Il y a moins de violence 22 ans plus tard. Ah non, c'est pas le cas. Quand même, vive la victoire du président Chirac. Mais je note que dans tout cela, le jour où, bon, la dernière fois c'était 42% pour Marine Le Pen, je devine qu'encore une fois, il faut mobiliser le cordon sanitaire antifasciste en toutes circonstances sur le mode « nous avons sauvé la démocratie, nous devons la sauver demain ». Moi, ce que je retiens de cette période, c'est quand même le verrouillage du débat public autour du concept d'extrême droite qui devient le concept pour abolir la pensée, pour abolir toute réflexion. Vous avez un contradicteur, répétez extrême droite, hurlez-le, hurlez-le, faites-le hurler par des collégiens, par des lycéens, et vous réussirez à éviter un débat démocratique. Je me demande si on regarde 20 ans, plus de 20 ans plus tard, si on regarde tout ça, est-ce qu'on se dit, les Français qui vont demain peut-être voter pour le RN, c'est ce que disent certains sondages au deuxième tour de la présidentielle de 2027, est-ce qu'on va encore leur dire on n'accepte pas de débattre avec eux, c'est un effondrement de la démocratie, ou est-ce qu'on va se dire que le refus de prendre au sérieux ce premier signal en 2002, le refus de prendre au sérieux tout ce qui avait amené tant de Français à voter à ce moment pour Jean-Marie Le Pen et peut-être demain pour Marine Le Pen, est-ce que peut-être que ceux qui aujourd'hui célèbrent sur le mode « Ah ah ah, nous avons eu notre première libération antifasciste à nous, c'était notre entrée dans l'histoire sous le signe de l'antifascisme », peut-être ont-ils créé les conditions de ce qu'ils redouteront demain, de ce qu'ils maudiront demain.
Très intéressant à analyser tout ça. Merci beaucoup Mathieu. Merci Dimitri. Merci Charlotte. Merci Marc. À tout de suite l'heure des Pro 2.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.